Bonsoir, merci d'être là pour cette quatrième séance du symposium. On avait prévu d'en faire cinq. On a été victime de plusieurs concours de circonstances entre une défection d'une des personnes qui était prévue au programme, la nomination d'une autre des personnes à la durée d'assise et mon propre congé de paternité la semaine prochaine, qui font que malheureusement on va annuler la dernière séance et que on va essayer de commencer le programme des deux dernières ici. La dernière séance, on comptait parler de manipulation génomique, de clonage, d'eugénisme, d'OGM, qui sont peut-être des mots qui vous font frémir d'horreur et on comptait en avoir une approche un petit peu plus froide. Essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et puis se passer des réactions épidermiques pour voir comment c'est, pourquoi c'est. Est-ce que ça peut être utile, toutes ces choses-là, toutes ces manipulations, est-ce qu'on a quelque chose à y gagner, est-ce qu'on a quelque chose à y perdre, comment ça marche surtout, est-ce que c'est la technique qui est en jeu ou est-ce que c'est ce qu'on a fait, est-ce que c'est la société qui l'a fait qui est en jeu. Bon voilà, on voulait parler de tout ça. S'il y a des sujets qui vous intéressent dans tout ça, vous pouvez y revenir pendant le débat parce que c'est pas tout à fait le sujet de cette quatrième séance, bien évidemment il y a des points communs. Aujourd'hui, on voulait parler de génotype, phénotype et environnement. Et la séance, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est que les génotypes, les phénotypes, quels sont les rapports entre les génomes, l'environnement, comment est-ce qu'un génome produit un organisme, etc. Parce que pour l'instant, on avait parlé beaucoup des différents types de génomes, de comment ils étaient organisés, qu'est-ce qu'il y avait dedans, comment ils évoluaient, pas tellement quels étaient les liens entre les gènes et l'organisme, les liens entre les gènes et le comportement, ça touche à des problèmes aussi qui commencent à toucher à l'éthique quand on parle de l'inné, l'acquis, des comportements qui peuvent être associés à des gènes, est-ce qu'on est déterminé. Voilà, c'était la première séance où on voulait vraiment entrer de plein pied dans le thème de l'université populaire cette année, avec les limites, les bornes, qu'est-ce que on doit poser comme limite et comme borne quand on connaît toutes les avancées scientifiques qui sont liées à la génétique et à la génomique et aux biotechnologies, qu'est-ce que on peut discuter autour des limites qu'on aura envie de poser à tout ça, ou alors pas en poser, je ne sais pas, parce que le thème de l'université populaire peut-être de dépasser les limites, voilà, dépasser peut-être le sentiment d'effroi qu'on a devant les OGM, l'eugénisme. Voilà, je commence par le dernier transparent que j'avais montré l'année dernière, je ne sais pas s'il y a des fidèles. Ça fait le lien avec le cours de l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne électorale de 2007, il y a eu ce débat entre Sarkozy et en fait, voilà, je me permets de citer, puisqu'on est à l'université populaire sous le patronage de Michel Onfray. Sarkozy qui dit j'assumerai pour ma part à penser qu'on est pédophile. Et puis toutes sortes de bêtises qui suivent. Et puis il y a les bêtises de Onfray à côté. Qui dit le contraire, qu'on n'en est pas pédophile, qu'on ne soit façonné, non par nos gènes, mais par notre environnement, par la condition familiale, socio-historique. Alors, voilà, c'est un petit peu les caricatures, c'est vraiment les manifestations que j'ai repris avec des coupures de temps en temps, mais autrement, c'est un petit peu caricatural de penser d'une victime de droite, de penser de gauche. Quand on est de droite, on a envie de penser que le destin des gens est déterminé, comme ça on a plus de facilité à les écarter des sociétés. Et puis quand on est de gauche, on a envie de penser qu'on peut toujours faire quelque chose, que c'est l'environnement qui, si on améliore la société, ça va améliorer les choses. Bon, je dis que ce sont des bêtises parce qu'en fait, tout ça, on ne sait trop rien pour l'instant. Tout ça, c'est des affirmations peut-être qui mériteraient des années d'études pour savoir si vraiment les termes qui sont employés veulent dire quelque chose, si on peut avoir ça et qui ne sont pas trop conditionnés par un projet politique. Parce que c'est le but en fait des scientifiques, c'est d'accord, même si on n'y arrive pas toujours, évidemment, on a toujours des idées politiques derrière la tête, un projet politique derrière la tête, toujours des résultats qu'on préfère par rapport à d'autres, mais il faut essayer d'en être conscient et de dépasser ça. Donc, je ne sais pas si vous étiez au cours de Corpus lundi, alors il parlait des déterminismes sociaux. En disant, quand on fait de la sociologie, on devient plus libre parce qu'on arrive à comprendre les déterminismes sociaux et puis, du coup, à s'en défaire. Il y a une espèce de miracle, comme il appelait ça, qui fait que quand on est toujours à l'intérieur de contraintes, même quand on essaie de lutter contre ces contraintes-là, mais quand on arrive à la connaissance de ces contraintes-là, on devient libre. C'est pareil pour la biologie, on peut essayer de connaître les contraintes biologiques qui pèsent sur nous. Et c'est à ça qu'est consacrée cette séance. Alors voilà, l'équation principale de ce cours, c'est ça. Génotype plus environnement de phénotype. Le génotype, c'est ce dont on vous a parlé tout au long des trois premières séances. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a dans le génome. C'est ces suites de ce qu'on représente par des lettres, chaque lettre représentant un petit morceau de molécule, ce qu'on a appelé un nucléotide, et puis l'ADN c'était un enchaînement linéaire de ces nucléotides, et puis comme il y a quatre types de nucléotides, bah, on peut envoyer quatre lettres pour les écrire, et écrire un génome avec simplement une succession linéaire de quatre lettres. Alors là c'est un carré, mais le génome c'est une succession linéaire, il faut lire les lignes de gauche à droite et de haut. Et puis, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est comment est-ce que l'information génétique qui a été transmise de génération en génération et qui est cette suite de lettres peut se développer en un organisme complexe qui a été. Ouais, c'est... Il n'est pas à moi, celui-là. Voilà, ça c'est le génome, une toute petite partie d'un génome, quels que soient les génomes, ils sont beaucoup plus grands que ça, évidemment, mais voilà, c'est l'information, il s'agit de retrouver l'information qu'il y a dedans, ce qui sert. Comment est-ce qu'à partir de ça, on peut construire un organisme? Et alors, la métaphore qu'on emploie souvent, c'est quand on a ça, c'est. Ça ressemble un petit peu à ce qui se trouve dans un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a une suite de quatre lettres, c'est quelque chose d'informationnel, c'est-à-dire que c'est un code qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans les ordinateurs, des suites de 0 et de 1. En tout cas, ça va être une suite de 4 lettres qui peut facilement être codée par une suite de 0 et de 1, comme ça. Ce qui fait qu'on emploie souvent la métaphore d'une espèce de programme génétique qui a une métaphore qui a son utilité, ses limites, évidemment. On pourra discuter de ça aussi si ça vous parle, si vous avez envie de dire à quel point vous pensez qu'un être humain est différent d'un ordinateur. Mais voilà, c'est quand même le même type d'information qu'on trouve dans un programme d'ordinateur et dans un génome. Une information codée de façon linéaire qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. Par contre, dans cette équation-là, là, le génotype plus l'environnement de nos phénotypes, alors quoi, le génotype, c'est ça, c'est une information génétique. L'environnement, eh ben, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce qui nous entoure de façon très large. C'est la nourriture qu'on absorbe, c'est l'air qu'on aspire, tout ça au niveau macroscopique, quand la nourriture est l'air, ça peut être la nourriture des cellules absorbantes, ça peut être la température, tout ça c'est l'environnement. Et puis l'interaction entre cette information génétique et tout cet environnement donne l'organisme. Maintenant, dans cette équation, il y a pas mal de variations. Par exemple, un même génotype, ça permet de comprendre l'équation, un même génotype peut, en fonction de l'environnement, engendrer des phénotypes différents. C'est-à-dire qu'on peut constater une apparence différente d'un organisme. Phénotype, c'est ça. C'est là, je ne sais pas ce que c'est phénotype. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans l'organisme, ce qu'on observe. C'est la même racine du phénomène, c'est ce qu'on observe. taille d'un corps, ça c'est une partie du phénotype aussi. Et puis ça c'est le phénotype de bactéries. Chaque petit bâtonnet là c'est une bactérie, un colibacille, une bactérie. C'est une colonie qui ils ont tous le même génome. C'est les clones, les uns des autres, ils sont, parce qu'ils sont les bactéries sont produites par clonage, ça, c'est, vous avez vu ça avec Vincent, les deux premiers cours. Ils ont tous le même génome, et pourtant, ils n'ont pas tous la même apparence. Alors, c'est un petit peu artificiel, c'est une expérience, hein, on ne voit pas ça dans la nature, parce que c'est, on a corrélé l'expression de certains gènes avec une coloration. Une coloration rouge. Alors là, le rouge, on ne le voit pas trop à l'écran, sur l'écran d'ordinateur, ce qui est plus clair, mais bon, il y a quelque chose qui est légèrement orangé là sur la gauche. Imaginez ce rouge, et puis une coloration verte. Et alors, quand un gène s'exprime, ça fait du rouge, quand l'autre gène s'exprime, ça fait du vert, quand les deux s'expriment, ça fait du jaune. Et bien, on voit qu'avec exactement le même génome, il peut y avoir des variations très fines. Parce que là, l'environnement, c'est quasiment le même aussi. L'environnement macroscopique, c'est exactement le même. Elles grandissent exactement dans au même endroit, toutes. Pourtant, il y a une certaine stochasticité. Des fois, c'est un gène qui s'exprime, des fois, l'autre. On appelle ça du bruit moléculaire. Hein, des fois, c'est. C'est. Ce qu'il faut comprendre de cette expérience, c'est que, avec un même génome, et des toutes petites variations d'environnement peuvent donner un phénotype différent. L'équation, c'est vraiment ça. Phénotype plus environnement plus génotype. Donc, si on fait des petites légères variations d'environnement, hop, ça fait des légères variations de phénotype. De la même façon, dans cette équation, si on a des génotypes différents et un même environnement, ça peut donner un même phénotype ou des phénotypes différents. C'est parce que ça fait le raisonnement, là c'est un cas où des génotypes différents. Voilà, ici c'est des petits pois qui ont des génotypes différents, et pourtant qui ont la même apparence. Ici, donc il y a des petits pois qui ont ce dessin veut dire il y a les parents à gauche et il y a les rejetons à droite. Il y a des petits pois lisses et des petits pois rayés. Et ça, c'est génétique, hein, c'est héritable. C'est assez facile de s'en apercevoir parce que quand on fait des croisements entre petits pois rayés, c'est des petits pois rayés, entre petits pois lisses, c'est des petits pois lisses. C'est ça un caractère génétique, d'être rayé ou d'être lisse. Par contre, quand on a des parents, deux parents qui sont lisses, eh ben, on est lisse. Et quand on a un parent qui est soit la mère, soit le père, ça n'a pas d'importance, qui est lisse et un parent qui est ridé, on est lisse quand même. Voilà. Alors qu'on a un génotype différent, du coup, parce qu'on hérite du patrimoine génétique de ses deux parents, un chromosome du père, un chromosome de la mère. Ici, donc, on a un chromosome qui vient d'un génotype qui veut dire lisse. D'un caractère lisse, un chromosome qui code pour un caractère ridé, pourtant on est lisse. Bon, alors ça fait deux choses différentes peuvent donner le même phénotype à la fin. S'il y a quelque chose que vous ne suivez pas, vous pouvez interrompre à tout moment. Hein, c'est au mieux. Parce que ça peut se compliquer un petit peu au fur et à mesure. J'ai pris l'exemple des petits pois parce que les petits pois sont assez liés à Mendel. Vous avez peut-être vu ça à l'école. Alors, je vais quand même faire le rappel parce que c'est des lois très importantes pour la génétique, ces lois de Mendel, qui ont été établies au 19e siècle. Alors, avec des expériences justement sur des petits pois, c'est des expériences qui montrent comment les caractères peuvent être transmis à la descendance et qui montrent comment on peut être porteur d'un génotype qui pourrait vouloir dire ridé, mais qui en fait est lisse et puis qu'on peut transmettre ça à ses descendants. Alors voilà comment ça marche, l'expérience pour l'instant. Première génération, on se débrouille pour avoir des petits pois. pois, une lignée de petits pois complètement lisse d'un côté, une lignée de petits pois complètement ridée de l'autre. Voilà, on peut se débrouiller parce que les petits pois ont l'avantage de pouvoir se reproduire tout seuls, donc ils peuvent faire de l'autofécondation. S'ils font de l'autofécondation, vraiment, ils n'auront pas les chromosomes des deux parents, ils ont seulement leurs chromosomes à eux, ce qui permet d'uniformiser un petit peu le génome. Alors on a un génome uniformisé lisse d'un côté, uniformisé ridé de l'autre. Et puis, à un moment, on prend un individu de l'un, un individu de l'autre, on les croise et on regarde la descendance. Et bien la descendance n'est constituée que de petits pois lisses, bien qu'il y ait un parent ridé. D'accord ? Ensuite, ce que Mendel fait, c'est de prendre les pois de la première génération, descendance première génération, et les croiser entre eux. Alors, il n'y a que des lisses. Par contre, dans leur descendance, il y aura des lisses et des ridées, avec une proportion de 3 lisses pour un ridé. Ce qui veut dire que le caractère ridé a passé une génération sans apparaître dans le phénotype. Par contre, il était bien là dans le génotype puisqu'il a réussi à passer la génération. Ça, c'est l'expérience. Alors, il faut essayer d'expliquer ça, de théoriser un petit peu. Et c'est ce que Mendel a fait. Donc, ce que Mendel a fait, c'est de modéliser ça. Il ne connaissait pas l'histoire des chromosomes paternels, maternels, tout ça, mais il s'est aperçu à ce moment-là, même sans connaître ça, qu'on était porteur de, non pas un génotype qui code pour un caractère, mais de deux, et qui peuvent être différents. Et que c'est la combinaison des deux qui avait décidé du phénotype. Alors, ça veut dire qu'on code ça par deux lettres, parce qu'il y a deux caractères, on est porteur de deux, après on va s'apercevoir que c'est. Par les chromosomes, mais les deux soutiennent des parents. Donc par exemple, les deux premiers là-haut, il y en a un qui est lisse, c'est-à-dire que ses parents lui ont transmis les deux caractères lisses, et puis celui de l'autre qui est ridé. Puis quand on les croise, chacun qui est porteur de deux caractères va en transmettre un à sa descendance, un seul, et au hasard. Donc, que ce soit là, quand on a les deux mêmes, c'est pas important, puisque quel que soit celui qu'on transmet, le génotype sera le même. Par contre, quand c'est pas les mêmes, là, pour transmettre l'un ou l'autre, ça peut être important. Alors voilà, on les croise, ça donne une génération où ils sont tous LR, mais LR, ça donne le génotype lisse. Hein? Et quand on croise des LR, et bien selon ce qu'ils donnent, il y a ceux qui donnent L et ceux qui donnent R, ils se retrouvent avec ceux qui reçoivent LL, et bien ils sont lisses, ceux qui reçoivent LR, et bien ils sont lisses aussi, et ceux qui, par hasard, il y en a un cas, qui reçoit R d'un parent et R de l'autre, et bien ils se retrouvent avec deux R, et ceux-là le disent. Ben, pour les mots de. Il y a des jumeaux. Ah oui. D'accord. Bon, ça je ne sais pas, mais d'accord. Bah, alors, parce que les dominants, ce n'est pas vraiment une explication de pourquoi. Hein, c'est juste, on l'appelle dominant parce qu'il l'emporte et on est d'autres réflexifs parce qu'il n'emporte pas. Pourquoi ce sont des mécanismes moléculaires qui font que à l'endroit où. Où le gène est codé, et ben c'est son état qui prend le dessus sur l'autre. Je ne sais pas si on peut avoir une explication plus poussée que ça, du pourquoi. C'est le...
Je dirais que en fait, tous les cas existent. On observe tout, on observe la dominance. Il y a des caractères qui sont dominants, comme être lisse, ça c'est être ridé, mais il existe des caractères codominants. Donc on va avoir un phénotype intermédiaire à l'itération suivante, et puis des caractères récessifs comme idée. Donc en fait il existe tous les cas de figure, tout ici que le cas sur lequel Mendel a fait qu'il a trouvé, c'est grâce à...
Oui, voilà, je ne sais pas s'il était dominant comme Abel a créé ça, et pourquoi il est dominant exactement.
Alors pourquoi il est dominant, on connaît des cas où ça s'explique assez simplement, par exemple quand on a quelque chose, quand l'un en face de l'autre, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui ne fonctionne pas. Avoir deux allèles qui fonctionnent, ça va donner un outil. Avoir un allèle qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas, ça va permettre quand même de refaire la fonction. Avoir deux allèles, deux versions du gène qui ne fonctionnent pas, ça peut être la peine. Il y a plein de maladies qui sont comme ça. Peut-être avoir une copie du gène de temps en temps, c'est suffisant pour avoir un phénotype peut-être normal.
Voilà, et puis si les petits pois vous intéressent moyennement, il y a quelques traits de phénotype humain qui sont bien expliqués par les caractères comme ça, des caractères qu'on dit mendéliens, parce que ils sont transmis selon les lois de Mendel. Il y en a un, c'est d'avoir le lobe de l'oreille attaché ou détaché. Ça, c'est le dominant, c'est détaché, le récessif, c'est attaché, et vous pouvez observer dans les familles, ça se transmet comme ça, avec un seul caractère, un petit peu la façon des petits pois. Et puis l'autre, c'est la façon dont c'est la forme du cuir chevelu. Il y a une des deux dames qui a un petit pic sur le front, et l'autre qui n'en a pas. Voilà, ça aussi, il y a un caractère dominant, un caractère récessif, selon la façon dont les cheveux sont implantés sur le crâne. Ça vous passionne peut-être un peu plus que les petits pois, mais peut-être on aura envie de s'intéresser à des caractères plus passionnants que ça. Les oreilles et les petits pois, j'ai de la chance. Hein. Malheureusement, la majorité des caractères sont pas du tout mendéliens. Mendel avait fait pas mal d'expériences aussi. C'est l'expérience la plus connue, celle qu'on apprend à l'école, celle-là, celle des petits pois, si vous voulez. C'est parce que c'est l'expérience qui est la plus claire à expliquer, qui marche super bien. Par contre, il y en a fait plein d'autres, des expériences. Il a choisi de mettre l'accent là-dessus parce qu'on peut bien théoriser là-dessus. Mais toutes ces autres expériences, qui sont peut-être les plus intéressantes parce qu'elles n'ont pas marché, justement, pas marché comme ça en tout cas. Et par exemple, sur des couleurs de fleurs, des couleurs de fleurs de Aristide Mendel, c'était un botaniste, hein, il faisait ça sur les plantes et puis il a croisé énormément, il a fait énormément d'expériences de croisement. Quand il croisait une fleur rouge avec une fleur blanche, alors selon les lois qu'on a vues juste avant, on s'attendrait à avoir des rouges, des blancs, selon certaines proportions. Maintenant, la langue de peau contient des roses. Alors, ça ramène à une théorie un petit peu plus ancienne où les gènes ne seraient pas transmis comme ça, de manière avec des caractères ponctuels, ou un caractère ici pour un trait, mais vous aurez des systèmes de dominance et de récessivité entre les chromosomes des parents, mais où on opérerait un petit mélange entre les chromosomes des parents le rouge et le blanc pour donner du rose. Bon, et en fait, il n'a pas du tout essayé d'expliquer ça par cette théorie du mélange, mais bien que la majorité des caractères qu'il est constaté étaient comme ça, ne marchaient pas avec les premières langues mondiales. Il a fondé une théorie qui, quand même, était basée sur le premier cas, c'est-à-dire le cas où il y a une dominance, une récessivité. Et puis les autres, il a expliqué ça par des combinaisons. C'est-à-dire que quand il n'arrivait pas à faire qu'avec un caractère, on arrive à expliquer toute la descendance, et bien il a ajouté une combinaison, au lieu d'avoir un lit trilé, ben on a un lit 1, un lit 2, et ici c'est, en ajoutant des combinaisons de caractères, on peut expliquer qu'il peut apparaître du rose, parce que c'est la combinaison entre un caractère rouge. Et c'est, il ne connaissait pas les gènes ni les chromosomes, mais c'est quand même ce qui va évoluer dans la, vers la théorie chromosomique où la plupart des caractères ne sont pas déterminés par un gène, comme les oreilles, les caractères bifurqués, les petits pois, qui eux sont déterminés par un gène. Mais la plupart des caractères, ce n'est pas le cas. La plupart des caractères sont, les caractères héréditaires, donc génétiques, sont déterminés par tout un ensemble de gènes, une combinaison qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de gènes qui participent à l'élaboration d'un caractère. Et là, c'est un de ces exemples-là. Et c'est la théorie génétique actuelle donc, qui veut que il y a quelques caractères mammaliens comme ça qui sont un gène, et tous ceux qui ne le sont pas, on essaie d'expliquer par la combinaison de l'action de plusieurs gènes. Et par la suite, donc, on a principalement Morgan a découvert la théorie que ces caractères étaient sur les chromosomes et à certains endroits sur les chromosomes. Ça aussi, c'est des choses que vous avez vues avec Vincent, c'est-à-dire que les gènes sont des lieux sur les chromosomes. Il y a, sur un chromosome, c'est linéaire, il y a plusieurs endroits où il y a des gènes, c'est-à-dire de l'information qui est interprétée par la machine cellulaire, etc. Que des protéines, et ces protéines vont avoir une action sur le phénotype. Et puis, c'est Morgan qui a localisé ces gènes sur les chromosomes. Et c'est principalement Schrödinger, qui n'était pas un biologiste, qui était un physicien, mais qui a eu une importance assez grande dans la théorisation de la biologie moléculaire, qui, au lieu de définir un gène par un emplacement sur un chromosome, a défini le gène par l'information qui portait. C'est-à-dire un petit peu, c'était sans doute influencé par l'informatique naissante, c'était après la guerre, et c'est assez étonnant justement que cette concomitance entre la découverte de cette structure de l'ADN, qui est une chaîne linéaire, de quelque chose de caractère qu'on peut coder effectivement comme des ordinateurs, et puis l'invention des ordinateurs, on code des choses par des 0 et des 1. Et alors, ce que Schrödinger a apporté, c'est de dire, eh bien, un gène est une information qui est décodée par la machine cellulaire et pour donner ensuite un caractère. Ce qui fait qu'il y a un code entre une chaîne quasiment numérique qui est le gène, qui est décodée par la cellule pour en faire un phénotype. Et tout c'est bien accordé avec la ségrégation des chromosomes, c'est-à-dire qu'on porte 23 paires de chromosomes et dans la paire de chromosomes, on en porte un du père, un de la mère, et que chaque chromosome est porteur de plusieurs centaines de gènes, et les gènes sont. Le matériel héréditaire est transmis comme ça, c'est l'information génétique qui est transmise comme ça et interprétée par la cellule pour donner un phénotype. Maintenant qu'on a cette théorie, il s'agit d'expliquer les caractères génétiques, d'essayer de les détecter, d'essayer de les expliquer. Malheureusement, peut-être les biologistes ici ne seraient pas trop d'accord avec moi, mais on n'en est pas encore très loin dans cette explication-là. Alors, de toute façon, vous avez dit, on arrive à avoir la fonction de quelques milliers de gènes sur des familles qui comportent. C'est ça. On arrive à avoir une de ces fonctions-là, on arrive à savoir que ce gène est impliqué dans la constitution d'un trait de l'organisme. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment le gène fonctionne tous les temps. Et il y a pas mal de cas où on arrive à instancier cette équation-là, génotype plus environnement comme phénotype, mais on est loin de savoir le faire pour tous les caractères. Et je vais vous donner des exemples de caractères pour lesquels on sait le faire et comment est-ce qu'on arrive à le faire. Alors, voilà, c'est soit le caractère est indéniable. Dans ce cas-là, on identifie un gène en particulier, un emplacement sur un chromosome, ou qui est responsable d'un trait de caractère, ou plus précisément d'une différence de trait de caractère. Parce que quand on parle de one Mendel, on ne dit pas tout à fait ce gène est responsable du caractère ridé, mais ou du caractère lisse, mais on réfère toujours au caractère opposé, c'est-à-dire c'est dans ce gène que se passe la différence entre le lisse et le ridé. Maintenant, c'est un petit peu extrapolé de dire que c'est ce gène qui est responsable du caractère. Mais bon, dans ce cas-là, et puis, alors, les cas de. Je vous ai cité, bon voilà, physiquement, on a les gommes des oreilles, on a les implantations du cuir chevelu, il y a des maladies aussi qu'on connaît qui sont dues à un seul gène, comme la maladie de Huntington, la mucopolysaccharidose. Là, on a précisément identifié les gènes qui sont responsables de la maladie, c'est des maladies qu'on peut appeler génétiques. Même si, une fois qu'on a ce gène-là, si on entre dans le débat de l'inné et de l'acquis, on pourrait dire, voilà, ces maladies, sont des maladies complètement innées, puisque, effectivement, on a identifié le gène, ce qui fait que ben, si on a telle séquence dans le gène, on a la maladie, si on a telle autre, on n'a pas la maladie. Donc, on pourrait dire, voilà, 100% génétique, cette maladie-là. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, cette quantification, s'il y a un message que j'aimerais arriver à faire passer, c'est que cette quantification, il faut s'en méfier beaucoup et puis l'abandonner, pourquoi pas. Parce que si on prend l'exemple d'une maladie comme ça, prenons l'exemple d'une maladie précise qui s'appelle la phénylcétonurie. Je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est pas très important. C'est une maladie génétique rare. Et effectivement, elle est due à un seul gène, c'est un caractère mendélien. C'est une maladie qui se déclare dans la petite enfance et qui est très grave. Et elle se déclare à chaque fois quand il y a un certain allèle, enfin, une certaine séquence dans les gènes. Donc on pourrait dire 100% génétique. Maintenant, ce n'est pas tout à fait vrai parce que cette maladie se soigne. Quand on la détecte, on peut, par thérapie génique, reprendre la séquence du gène qui ne déclenche pas la maladie, l'injecter chez le malade, qui finalement arrive à guérir et à vivre tout à fait normalement. Alors, ça veut dire que quand on est porteur du gène qui est censé développer la maladie, selon l'environnement dans lequel on va se trouver, on va développer la maladie ou pas, on va se faire soigner ou pas. Et là, on pourrait dire, ben, il n'y a plus de facteur génétique là, c'est 100% environnement. C'est selon l'environnement où on se trouve, on va développer la maladie ou pas. Alors, d'un côté, on peut se dire selon si on est porteur ou pas, on va développer ou pas, mais en fait, non, c'est selon l'environnement dans lequel on se trouve. Et finalement, c'est à la fois 100% génétique et 100% environnement, ce qui fait que cette quantification entre l'inné et l'acquis, elle n'a plus trop de sens dans ce cas-là. C'est une maladie génétique. Mais ton phénotype est déterminé par l'environnement finalement, si on arrive à si on sait la soigner. Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est vraiment ce qu'on appelle le porteur sain, je suis comme ça en nom, qui va avoir potentiellement une maladie, mais qui se développe bien même, alors que
là,
ça va avoir ça ou pas?
Oui, on pourrait dire pour le porteur du gène, mais que vous n'avez pas la maladie. Que finalement le génétique est un génétique sain et que dans cette équation, la génétique ou l'environnement dans le génétique, on voit que bah, c'est le génétique qui découle là, puisque sinon pour les génétiques ou pas, la vie là, vraiment.
C'est à la fois le génétique qui découle évidemment, parce que c'est celui qui a le gène sain de la maladie, par contre, selon l'environnement dans lequel on se trouve, on va développer quel gène génétique.
C'est l'environnement qui va décider si on va être malade ou pas. C'est pas l'environnement qui va décider si on a un gène ou pas. Ça, c'est la distribution des cartes génétiques. Par contre,
Donc même une maladie comme ça, dont les bases génétiques sont très claires, hein, sont très connues et sont vraiment binaires, on prend vraiment de la mutation sur la fin. Le génétique peut être complètement déterminé par l'environnement. Donc il faut spécifier quand on dit c'est un trait de caractère, et 50% lié, 50% acquis, tout ça, ça veut rarement dire quelque chose, ça a rarement du sens ce genre de question. Hein. Si on développe quelque chose, c'est qu'on a des potentialités génétiques pour développer quelque chose, et puis que l'environnement l'a permis, tout est déterminé à la fois par le génétique et par l'environnement. Il faut pas.
Mais dans le fait que vous exprimez, là, vous dites que par thérapie génique, on peut changer. Donc c'est une manipulation extérieure, c'est pas un environnement
qui est. Alors, dans la définition d'environnement, cette manipulation extérieure fait partie de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, c'est la société dans laquelle on vit. Et si cette société dans laquelle on vit est capable de produire un médicament qui soigne une maladie, ben pour moi, ça fait partie de l'environnement, ça. C'est-à-dire que c'est. La société dans laquelle on vit. Il faut s'entendre sur les définitions, effectivement. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde dans quel cadre j'emploie ces termes-là. Mais pour moi, tout ça, c'est l'environnement.
Donc, l'environnement, c'est pas ce qu'on appelle l'épigénétique, alors ?
Non, c'est pas tout à fait ça. L'épigénétique, c'est de l'information génétique aussi, mais qui ne serait pas apportée par le génome. Alors, c'est quelque chose qui est en train d'être découvert petit à petit. Je ne connais peut-être pas encore grand-chose, mais c'est. Mais c'est ça, ce serait plutôt arrangé dans le cadre de l'information génétique, mais qui ne serait pas apportée par le génome. Bon, alors ce serait par exemple la forme de la molécule d'ADN, comment est-ce que la molécule se retrouve dessus, donc ça c'est pas que. Alors est-ce que cette forme-là, elle est codée dans la séquence du génome, c'est pas encore très certain. Mais l'épigénétique, ça c'est plutôt des choses qui se passent côté, ça se passerait du côté du génétique, du côté de l'information génétique. Alors que l'environnement, c'est quelque chose de plus global, c'est quelque chose qui est extérieur à l'information, quelque chose sur lequel l'information génétique ne peut pas être. Oui, c'était de dire qu'il y a des maladies qui peuvent être provoquées ou leur effet peut être contrôlé aussi par des germes, et que ça, c'est des choses qui font toujours partie de l'environnement, qui ne sont pas des domaines de l'information génétique. Le milieu dans lequel va se développer, va s'exprimer cette information. Voilà. Donc ça, c'est le trait matériel. Maintenant, s'il n'est pas, c'est un petit peu plus compliqué de savoir que les fonctions de gènes, comment des gènes sont apparentés à des traits, comment est-ce qu'un ensemble de combinaisons de gènes va engendrer un caractère, un trait, un comportement. On peut le faire en laboratoire sur des animaux, sur des plantes ou sur des bactéries en repérant les gènes et puis en enlevant un et puis en cultivant l'organisme comme ça et pour voir comment est-ce que l'organisme se développe. Alors par exemple, si on prend une mouche, on essaie de la développer sans un gène, et puis on s'aperçoit que ses ailes ne poussent pas, par exemple, on peut dire enfin, ce gène participe à la construction des ailes. Alors, si on a juste cette information-là, on ne sait pas beaucoup plus, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il participe, à quel degré, mais on sait qu'il est indispensable pour que les ailes puissent se construire. Donc, et puis on pense que ce n'est pas le seul, parce que c'est juste que quand on enlève, on n'a plus le trait de caractère. Donc voilà, c'est une des techniques qu'on peut employer pour essayer de voir la fonction d'un gène. Ensuite, ça c'est partir d'un gène et essayer de repérer sa fonction. On peut faire l'inverse aussi, partir d'un trait de caractère et essayer de repérer dans le génome les gènes qui y sont associés.
Alors ça, c'est des techniques un petit peu plus compliquées. Je vais essayer de vous donner une idée rapidement de comment on peut faire pour identifier une position d'un gène dans un chromosome quand on connaît le trait de caractère. En revenant petit poids, non seulement il y avait des lisses et des rayés, mais il y avait des verts et des jaunes chez Mendel. Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Mendel. La première, c'est ce que je vous ai montré, ça se transmet comme ça, les porteurs de deux caractères génotypiques et qui peuvent pour un phénotype. Et puis, ça, c'est quand il y a deux caractères, on peut essayer de voir s'ils sont dépendants ou non. Là, il y a un caractère lisse d'un côté, rayé de l'autre, et puis jaune d'un côté et vert de l'autre. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces deux caractères, couleur AC, sont dépendants ou indépendants les uns des autres. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis lisse, je suis aussi jaune, ou bien est-ce que quand je suis lisse, je peux être jaune, vert, et qu'il n'y a pas d'influence d'un caractère sur un autre. Alors, s'il n'y a pas d'influence d'un caractère sur un autre, on va obtenir à la deuxième génération. Alors, là, c'est le jaune qui est dominant, et le vert récessif. Et du coup, à la deuxième génération, on va obtenir des proportions. Alors, vous vous souvenez, il y avait 3 contre 1 pour le premier caractère. Là, il va y avoir 9 jaunes lisses contre 3 ridés jaunes, 3 verts lisses et un seul pour les deux récessifs, c'est-à-dire lisses et verts. Bon, il faut réfléchir un petit peu, il faut faire le calcul hein, pour arriver à ces proportions-là. Si ça vous intéresse, vous pourrez gratter un petit peu ce soir pour vérifier tout ça. Mais si les deux sont indépendants, on obtient ça. Par contre, s'ils sont dépendants, on n'obtient pas ça du tout, puisqu'on n'a pas le droit, par exemple, s'ils sont très dépendants et que si je suis jaune, je suis obligatoirement lisse, il n'y aura pas de jaune ridé, et donc il ne peut pas y avoir ces proportions-là. Donc on s'aperçoit, en regardant les proportions des caractères de la deuxième génération, si les caractères sont liés ou pas. S'il n'y a pas du tout de jaune ridé, on peut penser que les caractères sont liés. Il y a, à partir du moment où je suis jaune, alors je suis lisse. Si on obtient à peu près cette proportion-là, c'est qu'ils sont indépendants. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la théorie ça, maintenant qu'on connaît les chromosomes? Ça veut dire que s'ils sont portés par deux chromosomes différents, eh ben, ils sont transmis de façon indépendante. Et deux, c'est-à-dire que si je suis un parent, pour une paire de chromosomes donnée, j'en transmets une des deux au hasard, et pour l'autre paire de chromosomes, je transmets aussi une des deux au hasard, indépendamment. Qui remplit une face les deux fois. Par contre, si les deux caractères sont codés sur le même chromosome, dans ce cas-là, sur le même chromosome, il va y avoir je suis jaune, je suis lisse, ou en face, il va y avoir je suis ridé et je suis vert, mais finalement, il va y avoir que ces deux caractères qui vont être codés. Quand je vais transmettre un des deux, je transmets soit jaune lisse, soit vert ridé. Et les deux ne sont pas du tout indépendants. Je ne peux rien transmettre qui va pouvoir être jaune ou lisse. Et là, on peut s'apercevoir que les deux caractères sont liés. Et comme ça, à partir d'un caractère, on peut s'apercevoir de l'emplacement du gène ou d'un gène, s'il y en a plusieurs, qui est responsable de ce caractère-là. Ici, on peut s'apercevoir, par exemple, que si on obtient des relations de dépendance, alors, c'est codé sur le même chromosome. Déjà, on a une petite information sur l'endroit où est le gène qui code le caractère. Après, il y a des choses un petit peu plus compliquées qui utilisent une recombinaison pour savoir si les deux caractères sont proches ou pas, selon le degré de dépendance. Bon, ça, je ne vais pas m'étendre. Hein. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée de la façon dont, à partir d'un caractère, on peut savoir si l'autre est lié ou pas, s'il est sur le même chromosome ou pas, et puis voir l'emplacement du gène. Ensuite, les méthodes qu'on a, c'est des méthodes statistiques, parce qu'après, on n'a pas tellement accès aux mécanismes moléculaires qui vont de l'information génétique au trait de caractère compliqué. Par contre, on peut observer l'information génétique, observer le trait de caractère compliqué et voir si on peut établir une corrélation entre les deux. Alors, et ça, ça demande un petit peu de statistiques. Et alors, on fait beaucoup de statistiques sur les maladies aussi, savoir si c'est ce qu'on appelle les prédispositions, en fait. C'est-à-dire que si on a une corrélation entre la présence d'un certain caractère dans un gène et puis l'apparition d'une maladie, on prend un échantillon de population. On regarde leur génome, on regarde s'il développe cette maladie ou pas, et puis on regarde si certains porteurs de tel gène, est-ce qu'ils ont plus tendance à développer la maladie que d'autres ou pas. Bon, c'est quelque chose qu'on fait pas mal, les généticiens font pas mal, c'est ce qu'on appelle de la génétique quantitative. Et puis on a des corrélations. Alors, c'est difficile d'interpréter souvent les corrélations, d'abord parce que ça demande des statistiques assez complexes, et puis ensuite parce que la corrélation, c'est pas forcément la causalité. Tout ce qu'on sait, c'est que les choses vont ensemble. Est-ce que vraiment il y a une relation directe de causalité? C'est difficile à établir quand on ne connaît pas le mécanisme moléculaire exact, et souvent on ne connaît que par. Enfin, on doit l'imaginer seulement à cause de ces. De cette corrélation. Bon, ici j'ai pris un exemple un petit peu plus drôle que les maladies. C'est un graphique qui représente le choix de son partenaire pour se reproduire en fonction de son génome. Alors, c'est des expériences qui ont été faites sur une partie du génome qui est liée au système immunitaire et on pourrait avoir une hypothèse de travail qui dirait que on a un système immunitaire, les autres en ont un légèrement différent, et puis si on combine les deux, on peut avoir un système immunitaire qui comprend tout et qui du coup est plus efficace. Par contre, si on se reproduit avec quelqu'un qui est trop proche de nous, et là on a un système immunitaire qui finalement est plus réduit parce que l'interception est plus grande, donc l'union est plus petite. Et puis, donc ça peut être plus avantageux pour la descendance. La descendance va peut-être avoir moins de maladies si on choisit un partenaire. Là, donc, voilà, il peut y avoir une théorie comme ça. Si on arrive à avoir des mécanismes chimiques qui font que, ben, par exemple, par l'odeur, on arrive à reconnaître inconsciemment, hein, toujours, parce que c'est quelque chose dont personne n'est conscient, je pense. À reconnaître un partenaire qui est porteur d'un système immunitaire qui prête la défense sera avantagé parce qu'elle aura un système immunitaire plus complet. Et bien, voilà, ça c'est pour la théorie. C'est une hypothèse. On a le droit de tester. Je ne sais pas quelle est vraie, hein, pour l'instant. On peut penser à ça. Est-ce qu'il y a un mécanisme immunitaire comme ça? Est-ce que les génomes sont capables de faire ça? Alors ça, c'est une expérience qui a essayé de tester ça sur des couples. D'un côté, c'est des couples européens, de l'autre, c'est des couples africains. Et puis, on a mesuré en abscisse la distance entre ce morceau de génome, entre les deux morceaux de génome des deux parents qui collent pour ce système immunitaire. Plus la distance est grande, plus les systèmes immunitaires seront différents. Là, c'est le coefficient. Alors, c'est en anglais, je suis désolé. C'est le coefficient de proximité. Donc, plus les chiffres sont grands en abscisse, plus la proximité est grande. S'ils sont négatifs, ça veut dire qu'il y a une distance plus grande. Et on regarde si les couples ont une distance plus ou moins grande, savoir s'ils sont capables de reconnaître. Si l'autre est à une distance plus grande de soi. Alors, les barres sont le nombre de couples qui sont dans ce cas-là. Alors, par exemple, il y a tout à gauche un couple qui a une très grande distance, enfin, une distance à moins 0,2. L'échelle importe peu, hein, c'est une distance qui est calculée comme ça, le mode de calcul n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir que si on prend deux personnes au hasard dans la population, on tombe en moyenne sur le zéro. Et que là, d'après cette expérience, le graphique semble être pas tout à fait centré sur le zéro, légèrement décentré vers les plus distants. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et du coup, ça veut dire que si on prenait des couples au hasard dans la population, on aurait quelque chose de centré sur zéro. Si on prend les couples qui ont décidé de faire des enfants, on voit que c'est un petit peu décentré. Bon, voilà, c'est le genre de corrélation qu'on peut faire entre nos relations marrantes. Alors, c'est un effet assez léger, hein, il faut voir aussi, il faut faire intervenir tout un tas d'outils statistiques aussi, là, pour voir si cet effet, parce que je vous dis que c'est légèrement décentré, il se peut que ce soit par hasard aussi, hein, que ce soit un effet d'échantillon, pour voir si c'est pas de chance que cet échantillon il est un petit peu décentré, c'est parce qu'on n'a pas. Il y a des chantiers assez faibles, il va y avoir une quarantaine de couples, maintenant une trentaine. Et par contre, voilà, sur les couples africains, ça donnait un truc qui n'est pas décentré. Et les outils statistiques ont donné que, dans le cas de droite, il n'y avait pas de grosse différence avec le hasard. Puis dans le cas de gauche, il y avait une différence significative avec le hasard, avec une chance assez petite de se tromper, du genre 1% de chance de se tromper. C'est comme ça qu'on raisonne en statistique, on a une chance de se tromper, et puis une petite divergence par rapport au hasard. Alors là, la divergence est assez faible, et puis la chance de se tromper, c'est de l'ordre de 1%. Voilà, c'est un petit peu compliqué, l'effet n'est pas clair. C'est le genre d'effet qu'on peut obtenir, d'effet de corrélation entre un génome et il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, c'est un sujet qui passionne les généticiens, presque autant que les maladies génétiques, et c'est un sujet qui est encore en discussion. Ce genre de résultat, justement, parce que l'effet est assez faible, parce que l'échantillon est plutôt petit, parce que on peut toujours discuter du protocole, voilà, je vous montre, on voit un petit effet, c'est possible qu'il y ait cet effet-là, les résultats ne sont pas entièrement clairs, il faut faire pas mal de statistiques pour s'en persuader. Mais c'est le genre de choses qu'on peut faire, de relations entre un phénotype un génotype, et ici un phénotype qui est un comportement, donc qui est le choix d'un partenaire. Ensuite, voilà, d'autres choses qu'on peut faire pour savoir si, pour avoir des idées s'il y a un trait génétique ou pas, c'est d'avoir des raisonnements un petit peu indirects du genre, on fait des statistiques sur les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux, ce sont deux individus qui partagent exactement le même patrimoine génétique. Ce sont des clones. Donc, et les faux jumeaux, par contre, c'est des jumeaux qui sont nés en même temps, mais qui sont issus de gamètes différents, parce que spermatozoïdes et ovules différents, donc qui sont moins apparentés. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir si, étant donné que mon jumeau a tel ou tel trait de caractère, quelle est la chance pour que moi aussi je porte tel ou tel caractère. Il y a ça pour les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Alors comme là, il n'y a pas beaucoup de variations d'environnement entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux, j'imagine que si on a des vrais jumeaux et des faux jumeaux, elles élèvent à peu près de la même façon. Enfin, c'est des hypothèses qu'on peut toujours discuter. Hein. Et qu'on ne fait pas beaucoup de différence dans l'environnement si on a des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Et donc s'il y a une différence significative entre la ressemblance des vrais jumeaux et la ressemblance des faux jumeaux, on peut dire, tiens, là, on a affaire à un caractère génétique. Alors, des fois, voilà, par ce genre de raisonnement, on arrive à ça. Voilà, alors, c'est les hypothèses qu'on a sur des maladies, du genre la schizophrénie, par exemple. Je ne sais pas si vous avez... Il y a eu ces discussions quand il y a eu les cours de Daniel Brett. C'est un petit peu tout ce qu'on peut en dire, parce que c'est... Bon, voilà, il y a des pistes pour dire qu'il y a peut-être des prédispositions, c'est-à-dire que pour la schizophrénie, ça aurait été, les chiffres disent à peu près, si un des deux jumeaux est affecté, alors son vrai jumeau a 50% des chances d'en être affecté aussi, tandis que son faux jumeau aurait des mesures, il y a des variabilités, mais il y a des indices. Voilà. Et puis, il y a aussi des histoires marrantes sur les, justement, les six effets de seuil. Qu'est-ce que j'ai fait ? Les petits effets statistiques qui sont interprétés à tel instrument. Voilà, ça va toujours. Alors, voilà. Sur une petite histoire, il y a peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler dans la presse, c'est des histoires de gènes de homosexualité. Ça a vraiment fait du bruit, ça, la presse. Il y a eu des unes de magazines qui se sont faites là-dessus, découvertes en 93, de ce qu'on appelait le gène de homosexualité. C'était une expérience qui prenait et puis il s'était aperçu que ces personnes homosexuelles en regardant un petit endroit dans le chromosome X, voilà, c'est un marqueur dans le chromosome X, et bien sur 40 personnes il y avait le marqueur qui était qui avait une forme vraiment similaire pour 36 d'entre eux. Alors c'était spectaculaire, on s'est dit, voilà quand même, si 36 parmi les 40 homosexuels qu'on a sélectionnés portent ce marqueur-là, on a affaire apparemment à un déterminant fort. Et c'était une étude qui a été faite en grande partie par Dean Hammer, qui est un chercheur américain, homosexuel lui-même. Et alors, ce qui met un petit peu la puce à l'oreille quand on regarde l'article, c'est que il avait un projet politique derrière. C'est-à-dire que quand il annonçait qu'il avait découvert le gène de l'homosexualité, c'était pas seulement pour en faire un résultat scientifique, c'était aussi pour que la société admette que l'homosexualité n'était pas une déviance, que c'était qu'il fallait que les gens arrêtent de dire qu'il fallait se soigner, que c'était pas dû aux parents, enfin, que c'était quelque chose de naturel. Du coup, il avait très envie de trouver ce gène de l'homosexualité. Et s'il avait très envie de le trouver, il l'a trouvé, forcément. Et quand je vous disais qu'il fallait faire des statistiques un petit peu sérieuses pour le trouver, 6 ans après, dans le même magazine, c'est un magazine très prestigieux en biologie, hein, c'est un des plus prestigieux dans lequel on peut publier. C'est assez difficile de publier ces résultats là-dedans. Des bons résultats, mais bon, ces deux-là, ils sont passés dans le magazine Science. 6 ans après, ils ont regardé exactement le même marqueur, mais en faisant des tests statistiques sérieux, et puis ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien du tout. Dans les années 90, il s'est passé plein de petites histoires comme ça. Aujourd'hui, voilà, on n'en sait pas plus que sur les supposés déterminismes génétiques de l'homosexualité. Il y a eu beaucoup de recherches et maintenant ça s'est un petit peu calmé, bon c'est pas exclu, ça revient bientôt. Hein. On a trouvé des gènes d'un petit peu tout, des gènes de l'infidélité, des gènes de la violence, des gènes de. Voilà, c'est un petit peu le désir sarkozyste du début, que tout le destin était déterminé. Et puis quand on cherche un gène de quelque chose, on finit toujours par le trouver. Donc il y a eu plein de publications comme ça. Et ça ne veut pas dire que toutes les publications, je sais, c'est pas mon message, hein, que tout ça ne vaut rien, mais on peut trouver quand même des prédispositions génétiques à pas mal de caractères, mais il faut quand même se méfier un petit peu quand on voit comme ça des choses qui ont des implications sociales trop évidentes, qui ont un projet politique trop évident derrière. Le même Dean Hammer a trouvé le truc marrant, le gène de Dieu. Alors, le gène de Dieu, il existe, il est sur le chromosome 14, qui s'appelle Vénat 2, et c'est lui qui fait croire 99% de la population en Dieu. Alors, c'est, et il a écrit ça dans un livre, parce que, bon, ça aussi, ça. Il n'a jamais publié ses travaux dans des revues scientifiques. Par contre, il a fait la une de Time. Bon. Il faut prendre ça avec méfiance, tout en disant, tiens, il y a peut-être quelque chose, pourquoi pas, peut-être qu'il intéresse.
Peut-être un gène qui nous permet de perdre la vie à certaines croyances.
Bah, pourquoi pas, oui, on peut se dire aussi que la perméabilité à certaines croyances, c'est pas mal familial aussi, parce que c'est des croyances, c'est des choses qui se transmettent pas mal par la famille. Maintenant, on peut se poser la question, effectivement.
Et
à l'inverse, c'est un peu de résistance. Ah bah non, en fait, c'est pour le coup, dans le. Ouais, alors, si vous trouvez ça, ça intéresse tout le monde, probablement. Mais bon, moi j'ai vu là-dessus. voilà. Alors, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous recevez tout ça. C'est l'histoire de prédisposition, c'est l'histoire de caractère génétique, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas toujours très reçues de façon très saine dans la société parce que voilà, les plans de débat que je vous ai montré au début avec Sarkozy qui arrive en disant il y a des prédispositions génétiques à la violence et puis il faut enfermer, il faut traiter les criminels des 3 ans. Il y a un passé assez lourd là-dessus aussi, il y a un passé eugéniste sur toutes ces supposées prédéterminations. On a trouvé des prédispositions à tout, à l'alcoolisme, on en trouvait à la paresse aussi à certains endroits, à certains moments, et il y a eu des programmes de stérilisation, de gens qui étaient supposés porteurs d'une maladie génétique, mais alors là aussi ça pose du problème quand la société s'en empare. Qu'est-ce qui est vraiment une maladie génétique, parce que les gens qui cherchent sur les maladies, c'est les gens lui-même qui cherchent sur l'homosexualité. Alors finalement, ils cherchent à prouver que l'homosexualité n'est pas une maladie, mais tout ça, c'est un petit peu englobé dans toutes les maladies génétiques. Donc il y a des choses qui sont vraiment à réfléchir avant de. En tout cas, si on trouve un gène de résistance à la croyance en Dieu, avant de balancer ça comme ça à la société pour faire attention au projet politique qu'il y a derrière. Et les raisons pour lesquelles ça peut choquer aussi, c'est que ça remet en cause un certain projet humaniste qui date de longtemps, qui voudrait que l'espèce humaine soit l'espèce qui finalement a le choix de sa destinée. Et tout ça, ça remet en cause un petit peu ça. Je vous mets une. Bon, tout ça, c'est ce que je dis. Une citation qui date des débuts de l'humanisme, qui est une assez belle citation, à mon avis, même si elle est assez ancrée dans ce temps, donc elle est assez phallocentrique, c'est à Adam qui s'adresse, et puis assez anthropocentrique aussi, parce qu'il essaie de dire qu'il y a quelque chose de. Une émergence de l'humanité, comme ça, que l'humanité est complètement séparée du reste de la nature, et c'est justement ce qu'on remet en cause assez souvent en biologie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on retrouve tout ce qu'on trouve quand on observe l'humain du point de vue moléculaire, du point de vue comportemental, ça tend à rapprocher l'humain de la nature. Mais c'est une citation qui font l'humanisme. C'est une citation de Pic de la Mirandole, du 15e siècle, et. Qui dit que, justement, on n'a aucun don particulier, la nature humaine, c'est de ne pas avoir de nature. Et puis, alors quand on fait de la biologie de la suite, on attaque un petit peu toutes ces choses-là, justement, on s'intéresse à la nature humaine, et finalement, on voit que certains comportements, il y a une nature humaine, et que c'est certainement pas une séparation qualitative à ce point-là entre les espèces animales et puis les. on peut ensuite très bien faire de la science avec le comportement humain. Et il faut fonder une philosophie qui peut se référer à ça quand même. Avec tout ça, voilà. Et